Bonjour, bon matin, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Sherry Hills, je suis la directrice de recherche à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario. Il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre première session du petit déjeuner Dialogue numérique à Sudbury. Merci à tous d'être venus. Je tiens à remercier nos partenaires en promotion, y inclut la ville de Sudbury, les industries culturelles Ontario North et la Chambre des communes de Sudbury. Ici, on a le gérant de la ville du Grand Sudbury. Elle aimerait dire quelques mots. Je voulais juste dire comment je suis heureuse de vous voir ici aujourd'hui. Je suis heureuse de vous voir ici. C'est très clair pour moi et pour plusieurs d'entre vous. Il y a beaucoup de choses merveilleuses qui se passent ici dans le Nord. Je suis heureuse de voir tellement de gens. On a une belle table ronde. On travaille de près avec tout le monde et on a plusieurs personnes ici qui font partie de notre équipe. Certains d'entre nous sont des créateurs de contenu et d'autres sont des personnes de soutien. J'aimerais aussi reconnaître qu'on est sur le terrain de l'Anishinaabeg. Vous êtes sur des terres de traités. Et aussi, c'est la semaine de reconnaissance des traités. On a eu toutes sortes de dialogues au travers de différentes cultures et langues. Aujourd'hui, c'est le début de quelque chose de bon. Et merci, Sherry, d'être venue. Et bienvenue tout le monde. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas la SODIMO, nous sommes une société de développement économique du gouvernement de l'Ontario. Notre mandat est de stimuler l'économie culturelle de l'Ontario qui contribue plus de 17 milliards de dollars à l'économie provinciale et génère presque 215 000 emplois. La SODIMO dessert des entreprises qui créent le contenu dans les industries du film, de la télé, des médias numériques interactifs, des revues, des livres et de la musique. Nous offrons une grande gamme de programmes de financement et de crédits d'impôt, ainsi que des services et des initiatives aux industries telles que ce petit déjeuner réseautage à omdc.on.ca. Nos collègues de SODIMO, du Bureau ontarien de promotion de la musique, ont fait don de téléchargement. N'hésitez pas d'en prendre un en sortant. Au mois de juin de cette année, nous avons dévoilé notre nouveau plan stratégique sur 5 ans, mener, relier et grandir, qui établit notre vision, notre mission et nos valeurs et qui saura nous guider pendant les 5 prochaines années. Nous avons aussi créé une représentation graphique qui résume les points clés du plan. Vous trouverez à la fois le plan et la représentation graphique sous la page Nouvelles et publications à omdc.on.ca. Nos podcasts s'appellent SODIMO parle. OMDC Talks. Vous pouvez les retrouver sur iTunes ou Google Play ou sur notre site web. Il y a une icône sous l'onglet collaboration. Les podcasts de d'autres déjeuners s'y trouvent aussi. Nous allons afficher le podcast de la session de ce matin à la fois en anglais et en français d'ici 2 semaines. Le sujet ce matin est diversifié les auditoires et les sources de revenus grâce aux événements en direct. Récemment, nous avons vu des excellents exemples d'entreprises qui se sont servies de leurs livres, leurs jeux, leurs revues, leurs émissions de télé ou de films comme point de départ et tremplin pour créer des nouvelles expériences. Ces expériences permettent aux créateurs de contenu de se rapprocher de leurs auditoires de façon non traditionnelle. Notre comité, aujourd'hui, promet de partager leurs idées, expériences et quelques-uns de leurs secrets pour réussir. Nous sommes heureux de vous présenter Tammy Frick de Cinefest qui est ici comme présentatrice aujourd'hui. Tammy Frick est reconnue au sein de la communauté des arts de par son rôle comme directrice exécutive de Cinefest, Festival du film international de Sudbury. Pendant sa tenue comme directrice du festival de 1995 au présent, Cinefest Sudbury est devenue une organisation de films qui suscite un grand intérêt du tourisme culturel, des médias et des professionnels de l'industrie. En 2014, le Festival de comédie de Sudbury, LOL Sudbury Comedy Festival et Film in Motion furent incorporés sous l'égide à but non lucratif Cultural Industries Ontario North, CION, duquel Tammy agit à titre de directrice générale associée. Elle a occupé le poste de présidente du conseil d'administration pour plusieurs organisations, associations, y compris la Corporation du développement de la ville du Grand Sudbury, City of Greater Sudbury Development Corporation, et plus récemment l'Organisation du tourisme régional du Nord de l'Ontario, Northern Ontario Regional Tourism Organization, RTO 13. Je vous présente aussi les panélistes d'industrie ici présents aujourd'hui, qui sont Mike Daou, fondateur Northern Game Challenge, Vicky Gihuala, éditrice et rédactrice Sudbury, Living Magazine Group, et Marc Montefiore, co-président New Metric Media. Je laisse à Tammy l'honneur de vous les présenter comme il faut dans un instant. Alors, je vous remercie tous d'être ici aujourd'hui. Et le sujet est tellement intéressant. Et je suis très honorée d'être ici comme animatrice. Avoir passé beaucoup de temps en développement culturel, je suis toujours excitée d'apprendre de nouvelles choses. Et je sais qu'on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. La Sodimo a fait un excellent travail d'avoir des panélistes intéressants. On est d'accord de vous présenter nos expériences personnelles par rapport aux événements en direct, les pros et les cons, les stratégies, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Alors, on a vraiment hâte d'entendre et de partir avec toutes sortes d'idées. Et j'espère que ça va vous arriver aussi. On a toutes sortes d'industries représentées sur notre table ronde. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos panélistes directement ici. On va commencer avec Mike, qui est prêt à côté de moi. Mike Daou est un programmeur local avec un amour partagé entre la communauté de développement de Sudbury et une quantité excessive, presque malsaine, de café. Il vient directement d'ici à Sudbury, ayant gradué de l'Université Laurentienne avec un baccalauréat en sciences informatiques avec une spécialisation en conception de jeux vidéo ou game design. Mike agit présentement comme lead programmeur en chef pour Advance Works, ainsi que fondateur et organisateur de Northern Game Design Challenge. À côté de Mike, on a Vicky Gilula, un visage familier pour nous ici à Sudbury. Vicky est éditrice associée et directrice de Sudbury Living Magazine et travaille en journalisme à Sudbury depuis 3 décennies. Auparavant, elle était la rédactrice de Northern Life et travaillait comme journaliste pour Northern Ontario Business. Graduée de l'École de journalisme de l'Université Ryerson, elle a initié plusieurs écrivains débutants à l'écriture par plaisir ainsi que l'écriture à but lucratif. Et elle est la présidente fondatrice du Guild des écrivains de Sudbury, Sudbury Writers Guild. Passionnée des arts, elle est un membre du Conseil des arts de Sudbury et une des fondatrices de l'événement Mayor's Celebration of the Arts. Celebration of the Arts. En 2015, sa pièce En un acte, Golden Girl, au sujet d'une femme chercheuse d'art durant la ruée vers l'art de Porcupine, a été produite au Centre de théâtre de Sudbury. Et au nord de la table, Marc Montefiore, co-président de New Metric Media. Co-président de New York, Marc Montefiore fut nommé The Hollywood Reporter's Next Generation Under 35, 14 et Playback's Top 10 to Watch 12. Marc est le producteur exécutif ou chef de production de L'Araucanie, la meilleure série de comédie du Canada, et de What Would Sal Do, gagnant multiples prix canadiens Screen Awards pour Crave TV. Montefiore a aussi produit le Festival du film, Whistler Film Fest et TIFF Film Circuit Audience Choice, gagnant le meilleur long métrage. Cassie Dillon mettant en vedette Richard Dreyfuss, gagnant lauréat des Oscars dans Monsieur Randopis, et Tatiana Maslany, gagnante lauréat des Emmy. Bienvenue, Marc. On va commencer tout de suite avec les choses difficiles. Ce que j'aimerais faire, c'est demander à chacun de nos participants de la table ronde de prendre un moment et nous dire pourquoi ils croyaient que des événements en direct complémentaient leur marque ou leur produit et que les stratégies en général étaient pour développer ceci. Alors, on va commencer avec Marc. Ah, avec Mike, pardon. Alors, je suis le fondateur de Northern Game Design Challenge. C'est une compétition de 48 heures où les programmeurs, les artistes, les musiciens doivent travailler ensemble pour créer un jeu dans très peu de temps. Traditionnellement, ceci est fait sur l'Internet. Et la plupart des événements en direct, c'est quelque chose qui est fait dans un médium physique et c'est amené à l'Internet pour interaction. Alors, on croit que c'est l'opposé. On a pris quelque chose qui est habituellement fait dans le contexte Robocon et amener les gens dans un lieu physique. Et ce qu'on a vu, c'est que l'interaction physique et l'engagement que les gens ont trouvé en faisant une interaction ensemble était quelque chose de très puissant pour rendre ceci un succès. Les équipes, ordinairement, devraient payer pour venir à Sudbury et payer pour venir à l'événement au lieu de travailler dans leur ville parce qu'ils aiment tellement l'interaction sociale et l'engagement. Alors, c'est mes deux scènes par rapport à mon expérience. Une question rapide ici pour faire engager l'auditoire. Qui a entendu parler de Twitch TV? Alors, environ la moitié des gens. Ceux qui n'en ont pas entendu parler, faites-en de la recherche par rapport aux événements directs. C'est une plateforme pour faire du gaming, mais aussi par rapport aux Américains, on peut apprendre beaucoup de leçons par rapport aux événements directs. J'ai une question pour vous. Avant de passer avec qui. Alors, ce concept de créer un événement en direct, c'est quelque chose qui vous est venu comme une idée ou quelqu'un qui vous a dit que c'était quelque chose que vous devriez faire? Comment est-ce que c'est venu? On n'avait pas vraiment l'intention de faire ceci. Il y avait un événement qui s'appelait The Great Canadian Athathon et c'est quelque chose qu'on pouvait faire n'importe où au Canada, même chez vous. Essentiellement, c'est la même idée. Faire un jeu vidéo, créer un jeu vidéo en 48 heures. Environ 4 ans passés, il y avait comme un trou ici à Sudbury de développeurs qui voulaient continuer à faire ceci, mais n'avaient pas une plateforme pour le faire. Alors, un de mes amis est venu dans mon laboratoire un jour. Il a dit, Mike, on devrait rassembler des gens une fin de semaine, créer des jeux et avoir du plaisir. Et ça a comme explosé dans une organisation à but non lucratif. Alors, c'est pour ça qu'il aime le café. Beaucoup d'heures, de longues heures. Je trouve ça très intéressant. Alors, est-ce que ça a commencé comme un événement en ligne? Oui. Et ensuite, c'est devenu un événement en personne. Oui. On n'a jamais fait la décision consciente de le faire en personne. C'est juste quelque chose qui est arrivé, qui s'est développé en se rassemblant juste quelques personnes. Et ça grandit naturellement de par soi-même. On a dit, on n'a pas vraiment eu l'intention de créer ça. C'est juste arrivé naturellement. Vicky? Comme vous savez, demeurer ici, Sudbury Living, ça fait partie de la média Sudbury. Et on est peut-être le grand-père des événements directs. Ou d'événements qui y sont reliés avec nos publications. On retourne en arrière de 30 ans à Northern Ontario Business. On a commencé un programme des loges au travers du nord de l'Ontario et leur journal Northern Ontario Business a aussi rassemblé des gens. Sudbury Living a environ 10-11 ans d'existence. Et à ce moment-là, les revues, c'était sûrement un défi pendant la dernière décennie, avec de moins en moins de personnes qui les lisent, mais pas nécessairement les personnes qui les lisent, mais plutôt les personnes qui les lisent sur papier. Les gens semblent les lire plutôt sur l'Internet. Alors, la revue voulait augmenter sa circulation et augmenter la conscientisation dans la ville pour attirer plus de promoteurs. On a commencé des événements directs. Il inclut un home show qu'on a utilisé pendant 4-5 ans, qui a eu grand succès. On a aussi eu une activité pour promouvoir notre revue de parents, mais on a aussi une activité pour les mariages, les noces. On a aussi des programmes 40 en bas de 40, les prix Community Builders Awards, et ceci semble rassembler les gens, promouvoir la marque, et ça crée beaucoup de bien. 40 Under 40 a eu beaucoup de promotion sur les médias sociaux. Notre problème avec certains événements en direct que Celebrity Living a fait, c'est qu'on allait, on pigeait tous dans le même pot et on demandait aux gens qui essayaient de faire la promotion, bien, ces gens avaient seulement X nombre de dollars à dépenser. S'ils dépensaient de l'argent dans la revue, bien, ça enlevait de l'argent de leur budget pour pouvoir aller au trade show. Alors, c'était un défi. Alors, c'est pour ça que on n'en a pas fait. On a tout l'équipement pour faire des annonces en personne sur Sudbury.com et on continue à promouvoir et à travailler sur ce projet. Mais encore, on est surtout en imprimante. Marc, est-ce que vous voulez dire un mot? Alors, comment s'est commencé pour la Letterkenny? C'est vraiment un temps excitant présentement. Parce que si vous allez à ces événements en direct, il y a de la programmation alternative. C'est ce que tout le monde fait ici. On est tous en train de faire ça. C'est devenu une entreprise énorme. Pour chaque concert et spectacle traditionnel qui est fait en direct, on peut trouver des alternatives. Alors, on parle de toutes sortes de choses, des soirées ou des galas de noces, de la comédie alternative. Ça arrive de plus en plus. Je peux imaginer pourquoi. Je pense que de nos jours, on est tellement sur nos ordi et nos téléphones que la connexion personnelle n'est pas aussi prévalente. Alors, les opportunités où les gens peuvent sortir de leur maison et aller voir quelque chose qu'ils aiment ou lire un passage dans un livre ou quoi que ce soit, c'est vraiment, c'est d'augmenter ses opportunités. Et pour ça, on a plus d'impact avec nos marques. Il y a plus de gens qui les voient. Alors, c'est une source de revenus secondaire. Alors, c'est arrivé de façon très organique. Pour nous, ça n'a pas commencé. Ce n'était pas le plan original. On savait qu'on avait, lorsqu'on a fait Letterkenny au début, c'était une marque qui était pour être une émission de télévision. On croyait que c'était pour rejoindre des auditoires de loin. Et on voulait ouvrir ça de différentes façons. Maintenant, on a une bière et ça réussit bien ici à Sudbury. Alors, les événements directs, comment c'est arrivé, c'est que après avoir eu un succès avec la première saison, on a eu des demandes d'avoir des gens de l'émission dans des brasseries pour lancer la première. Alors, ce sont des opportunités où on pouvait être créatif. On pouvait faire quelque chose qui serait authentique avec notre programme et notre marque. Des fois, on va dans un bar, dans une petite ville au nord de l'Alberta, et on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Ça va être le fun, mais ça peut être questionnable des fois. Alors, je crois que c'était la fête humaine de la fête de la Saint-Patrick. On est en train de filmer cette année notre premier bloc de Letterkenny saison numéro 3 et on parlait avec Tammy et on est en train de finir l'émission. Est-ce qu'il y a une opportunité de faire une émission en direct? Et on voulait tester et planter l'idée pour voir si l'entreprise avait des jambes. Et Tammy, qui a parlé au début, qui a représenté Sudbury, avait le festival de comédie. Alors, c'était la fin de semaine de la fête de Saint-Patrick et on a dit, on va voir ce qui va arriver. On voulait faire la promotion avec le festival de Tammy et ça a apporté beaucoup d'attention à Letterkenny. Tout le monde est en train de faire de l'impro et on leur demande d'être créatifs. Et Jared a eu un script et un bon format Et avec ça, et avec le support du festival, on a vendu 750 billets à l'intérieur d'une semaine. Ils se sont vendus très rapidement. Alors, à travers de ça, on a pu dire, hey, on a un marché pour ceci. Et étant donné les données qu'on a pour notre émission et la marchandise, on peut voir les démographiques et les géographiques de où sont nos auditoires. Et de là, on peut regarder et voir est-ce qu'on a un auditoire à l'extérieur de l'émission de télé pour essayer de faire ceci. Et c'est là qu'on a fait un partenariat avec Live Mission. Ils sont venus deux lundis passés et maintenant, on a une émission en direct. On a commencé avec 26 villes au Canada et les billets se sont vendus tellement vite. Maintenant, on a réduit le... On a ajouté 14 autres spectacles. On a ajouté 16 autres. Alors, on en a 42. Et les billets se sont vendus comme des patates chaudes. Et ça a tout commencé de façon organique. Des comparutions, lorsqu'on a testé l'émission ici à Sudbury. Et ça a tout débuté à partir de ça. Alors, c'est vraiment merveilleux. On parle de comment ça a débuté. Maintenant que c'est là et que tous les trois, vous avez eu des expériences avec des événements qui se passent depuis quelques temps et toutes sortes de composantes. Maintenant que c'est là, quel est le but? Le contenu est là? Vous avez développé des événements en direct? Est-ce qu'il y a vraiment pu gérer du revenu? Je crois que c'est un mélange de toutes ces choses-là. On a bâti notre auditoire, on cherche pour du revenu. Alors, on continue de faire ça. Avec la revue de mariage, de noces, on a un auditoire, je ne sais pas combien exactement. Ce sont des jeunes couples qui viennent. Et la revue et l'émission fonctionnent très bien ensemble. C'est une bonne combinaison, un bon partenariat. Et je peux dire aussi que je crois que en allant de l'avant, c'est des partenariats. Et avec la média, c'est très important à cause des coûts. Et aussi, parce que pour nous, on s'occupe vraiment juste de Sudbury et du nord de l'Ontario. Alors, c'est une plus petite population. C'est merveilleux que Toronto soit au courant de ce qu'on fait, mais ce n'est pas vraiment notre auditoire. Pouvez-vous nous donner un exemple spécifique d'un partenariat qui a été amener les choses à un autre niveau. Je dois y penser. Je ne peux pas penser, mais on a des partenariats. Maintenant, au lieu d'avoir juste notre émission, on participe à des émissions de jardinage et ce sont des commanditaires de nos événements. Alors, ça, c'est quelque chose qui a du succès. Et Mike, maintenant que vous avez bien commencé, c'est Mike, d'après le game, si on veut continuer à grandir physiquement, cette année, on a déménagé du Sudbury Game Challenge au Northern Game Challenge. On a trois autres venues sur Sainte-Marie. Notre défi retourne à la même chose, c'est des partenariats. On essaie très fort de trouver les gens clés dans les communautés pour des organisations qui peuvent nous engager avec les développeurs et avoir de la continuité dans ces régions. Vraiment, c'est vraiment important, surtout dans les espaces à but non lucratif. C'est d'essayer de trouver ces connexions avec les autres gens autour de vous qui font que ces événements en direct sont un succès. On a besoin de personnes. Et en parlant organiquement, s'ils sont déjà à la table, s'ils sont déjà présents dans votre service, c'est vraiment très, très important. Je vous demande la même chose. Marc, d'un partenariat, est-ce que c'est... Non, encore à vous, Mike. Pour nous, on a nos partenaires dans les différentes communautés. Thunder Bay, c'est la bibliothèque de Thunder Bay. Ils ont un très bel endroit aussi, les centres d'innovation, surtout pour avoir des contacts, du réseautage, et aussi les développeurs individuels dans les compagnies comme Near North Mobile Media Lab, qui ont un intérêt investi dans ce que vous essayez de faire et qui ont une similarité. Alors, c'est un bon agencement lorsqu'on essaie d'accomplir quelque chose ensemble. Et Marc, vous avez parlé de comment votre émission est venue, mais vous avez aussi des commanditaires, des partenariats, et vous avez une base de fans qui vous suivent. Comment vous pouvez développer ça pour que ce soit un succès? Par rapport au partenariat, j'ai appris beaucoup de la mafia. Et comment c'est venu? C'est qu'on avait une émission Bad Blood sur CTV, à CTV.com. C'est basé sur la mafia de Montréal. Ce que j'ai appris de ça, c'est qu'ils ont bâti un empire à travers de partenariats. Et c'était différent de les crimes organisés dans la mafia. Ça va faire du sens dans un instant. Suivez-moi. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est intéressant. On a lu à ce sujet, on a fait une étude pour développer le projet. Cette famille a pu trouver des points communs avec d'autres gangs. Au lieu de se battre et qu'il y ait du sang versé sur les rues et que tout le monde aurait juste un petit morceau et d'essayer de se battre pour ce petit morceau, ils ont décidé on va tous travailler ensemble. Et si on travaille tous ensemble, on va avoir un petit morceau, mais le morceau de terre va être plus grand. Il va y avoir moins de policiers sur notre dos et ça a fonctionné pendant longtemps pour eux autres. Alors, ce qu'on a appris de ça, c'est que les partenariats, même sur le côté légal, peuvent fonctionner très, très bien. Alors, avec ça, on a pris cette approche par rapport à des partenaires légaux. Si on a des partenaires qui ont un intérêt réel, ils vont s'assurer de faire tout ce qu'ils peuvent pour que ce soit le meilleur possible. Un exemple, c'est le partenariat. J'ai pas entendu le nom. On leur apporte le marketing et la reconnaissance de notre marque pour la bière et comment on va essayer de faire la promotion. Et ils font ce qu'ils peuvent faire le mieux. Ils font de la bière et distribuent une excellente bière. Moi, je ne saurais pas comment faire ça. J'aurais aucune idée. Et je ne veux pas vraiment apprendre comment faire ça. Alors, je fais confiance aux professionnels qui savent comment le faire. Alors, lorsque ça vient à des profits, des revenus, des recettes par rapport à ça, on a tous un intérêt pour que ça soit une réussite. Alors, c'est la façon que le vrai partenariat peut fonctionner. Et si on perd ensemble. Si on gagne ensemble. Alors, c'est avec la bière. Lorsqu'il s'agit de la Lucanie, l'émission comme telle, on a un partenariat avec Bell Media et c'est un peu différent des autres émissions de télévision où est-ce qu'on a quelqu'un qui achète des droits ici au Canada. On a un partenariat global avec Bell Media qu'on a lancé 2 semaines passées, la même journée qu'on a annoncé la vente de billets. Et ils ont des partenaires globaux, que ce soit pour n'importe quoi, la bière, le format de la Lucanie en un autre pays ou un autre spectacle qu'on a fait, ils vont le supporter, le promouvoir. On a une tournée en direct que Live Nation est en train de promouvoir. Un des plus gros défis de n'importe quel produit ou service, peu importe ce qu'il est, c'est d'avoir un auditoire ou des clients qui sont au courant que ça existe. Alors, ayant Bell comme un partenaire avec notre émission, ils peuvent se servir de tous leurs biens de médias. Alors, on a quelque chose que la plupart des émissions en direct et que les bières n'ont pas. On a le plus gros mégaphone dans le pays pour pouvoir promouvoir Crosby Radio, la télévision. Il y a aussi la média sociale. C'est énorme. La façon que la télévision fonctionne, ils vendent des temps pour des annonces. Ils ont aussi du temps sur les ondes pour leur inventaire. Alors, si on n'a pas un acheteur pour cet inventaire la semaine prochaine, alors on va mettre des annonces. C'est la même chose lorsqu'ils sont en train de promouvoir leurs propres émissions. Ils fonctionnent tous de façon semblable. Ils utilisent leur propre temps sur les ondes qu'ils pourraient vendre sur quelqu'un d'autre pour du revenu ou pour promouvoir leur propre émission ou leur propre produit. Alors pour nous, c'est un bénéfice énorme. Non seulement que Bell est un excellent partenaire, mais ils amènent tout le support de médias qui peut rendre l'émission connue tout au travers du pays. Alors, la journée qu'on a annoncé les billets en vente, on a eu de l'espace sur la radio, sur la télé. Achetez vos billets, voici où vous les achetez, voici le code pour... on a aussi eu des blasts sur courriel qui laissaient savoir aux gens que les billets pour le Canada étaient en vente. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas un partenariat. Ils ont un intérêt investi. Premièrement, ils sont les plus grands supporters de l'Ukraine. Parce qu'ils sont en train de produire l'émission. Mais maintenant qu'ils sont partenaires, ils ont encore plus d'intérêt investi. Alors maintenant, il y a encore plus d'attrait pour faire ceci. Alors ça, c'est d'après un partenariat de troisième partie. Il y a aussi un partenariat interne. Dans la famille d'Urdalucani, on a plusieurs marques à l'intérieur de ça. Il y a Urdalucani, il y a les Shamrock, la marque de hockey. Et il y a un joueur de hockey. Et on a aussi une marque de marionnettes. On a toutes sortes de marques qui sont en train de populer le monde de Urdalucani. Alors, lorsqu'on a fait une tournée en personne, en direct, à moins qu'on avait un partenaire majeur qui viendrait nous offrir quelque chose d'attrayant pour commanditer une tour en direct, ça serait commandité par Premium Logger. Alors, chaque espace sur la télé, toutes les annonces sur les médias sociaux au sujet de l'Ukraine, la tournée, c'est toujours amené par Premium Logger. Poppers, Premium Logger. Présentement, c'est une bière saisonnière, mais c'est une campagne multimillion de dollars pour une bière qui est dans notre famille. Alors, dans 6 mois ou 1 an, il va y avoir des marques de Larkany ou Poppers, et ils vont se demander qu'est-ce qui est venu en premier. Est-ce que c'était Poppers qui existait avant la Lucani? Et a commencé à commanditer la Lucani, ou est-ce que c'était l'inverse? Alors, c'est là où les lignes deviennent un peu embrouillées. Alors, je travaille sur ce genre de choses pour que la marque soit engagée, que l'auditoire soit engagé, et de donner les horaires d'émission. Et si on peut réussir à générer du revenu et des profits, ce serait merveilleux. Je crois que Marc obtient des partenariats en partageant ses histoires de mafia. Mike, je vous demande votre premier événement en direct. Est-ce que c'était profitable? Et sinon, quel changement avez-vous fait? Alors, premièrement, pour être très clair, on est une organisation à but non lucratif. Faire d'argent à la fin de la journée, ce n'est pas du tout notre mission. Ayant dit ça, on a eu un grand succès de façon financière. JSTC et nos commanditaires dans le secteur privé. Alors, par rapport aux finances, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, les gens sont convaincus. Une fois qu'ils vont à un de ces événements directs, ils ont une connexion, une présence à l'intérieur du groupe de gens qui font ceci. Ce qui veut dire que pour grandir, ce qu'on voit, c'est que ça augmente. Mais c'est un point solide pour garder, pour continuer avec ces choses, parce que de façon financière, vous allez toujours pouvoir savoir qu'il y a des gens qui vont connaître d'autres gens, qui vont impliquer d'autres gens. Je suis probablement la personne la moins qualifiée à cette table ronde pour répondre à cette question. Je vais admettre ça, mais je crois que les événements en direct sont quelque chose de naturel, d'organique, et un événement qui peut amener du revenu solide. Est-ce qu'il y a des différences entre les auditoires que vous attirez à votre événement en direct par rapport à votre publication, votre auditoire de publication? Je dirais non. Mais j'aimerais ajouter, parce que comme j'ai dit, nous sommes basés dans le nord de l'Ontario. On cherche toujours à avoir un auditoire plus jeune, parce qu'on sait que l'auditoire de choses imprimées vieillit, comme un événement de 40 en bas de 40. Ça peut-être attirer des gens plus jeunes. On avait une revue d'étudiants qui n'a jamais vraiment réussi. Pas parce que ce n'était pas une bonne revue, mais juste parce qu'on n'avait pas les personnes pour le lire. Et en parlant de faire de l'argent, je crois que tous nos événements ont pu faire de l'argent, mais le plus important, c'est la publicité, la bonne volonté, le réseautage. Comme une revue de prix de lauréat. Alors, ceci ajoute, ainsi que donner des emplois aux gens du nord de l'Ontario, parce qu'on fait des choses avec aucun appui du gouvernement ou d'industrie, mais on utilise nos commanditaires de promotion. Avant que je vous laisse aller, j'aimerais que vous partagiez, avant qu'on finisse la session et on va avoir une session de questions-réponses, pouvez-vous parler un peu de ce que vous avez appris d'après toutes ces expériences? Et comment est-ce que vous écoutez votre auditoire? Comment est-ce que vous faites les changements stratégiques pour aller de l'avant? Et quels sont certains des défis et des choses que vous avez bien fait ou des choses que vous avez dû changer en cours de route? Vicky, mais j'ai mentionné la publication d'étudiants. Ça nous a pris 5 ou 6 ans qu'on l'a fait pour se rendre compte que c'était peut-être pas la meilleure façon de toucher ce public. Le média a imprimé les journaux, les revues, ils sont dans un état de révolution ou d'évolution. Alors, on cherche toujours pour des façons de rester courant. C'est toujours en train d'évoluer. Et on ne peut jamais avoir une journée, même si on existe depuis longtemps, tu ne peux jamais dire que tu ne peux pas continuer de changer. Et étant donné qu'on est une petite compagnie privée, on peut faire des changements rapidement. Un de nos succès, c'est qu'on peut changer demain. On n'a pas besoin d'écrire beaucoup de mémos ou de trop y penser pour faire ça. Marc, vous vivez dans un différent monde. Vous devez vous adapter et interagir avec beaucoup de gens. Oui, c'est une expérience où ce qu'on apprend toujours. Lorsqu'il s'agit d'une émission en direct, on avait fait un test à Sudbury au mois de mars. Certaines des choses qu'on a apprises, ça c'était une émission de 75 minutes, il n'y avait pas de pause. Alors on a appris des choses pratiques d'avoir fait une émission live en direct. Pas de pause. L'auditoire semblait beaucoup l'aimer. Alors maintenant, notre but, c'est de l'augmenter à 90 minutes. D'après l'auditoire et de façon économique, avoir une pause donne une opportunité à l'auditoire d'avoir une pause, aller prendre une cigarette ou boire une bière par plus. Et c'est aussi une bonne opportunité pour vendre la marchandise par rapport à l'émission. Les gens... alors, il y a une opportunité économique d'avoir une pause, un entracte, et de façon créative, parce qu'on était seul, on avait accès à nos scènes de production et nos équipes qui pouvaient faire le design de la mise en scène. Et si on peut se promener sur un autobus, un bord de 15 pieds de long ne sera peut-être pas une façon simple et logistique de faire le design de la mise en scène. Alors, essayer de se promener avec ça pour 5 semaines, ce serait peut-être un problème. Alors, il faut figurer comment est-ce qu'on peut garder la mise en scène authentique, mais que ce soit aussi pratique. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on est en train d'apprendre de comment on annonce l'émission. Alors, on apprend énormément. Et ce qu'on est stressé, c'est lorsque l'émission vient à Sudbury, Toronto, près de où est-ce que notre base est. Et des amis de partout commencent à nous appeler pour des billets parce que c'est tout vendu. C'est stressant. Je sais comment répondre à ces questions parce que j'ai besoin des conseils par rapport à ça. Et vous, Mike, qu'est-ce que vous avez appris? La première chose que j'ai appris, je crois, c'est que tu dois vraiment... décider pourquoi tu fais un événement en direct. Et habituellement, ça finit par être lié à une chose. C'est qu'un événement en direct permet aux gens d'être engagés et d'interagir ensemble. Si vous êtes assis à la maison, mais si vous amenez ces gens ensemble, leur donnez des opportunités d'être engagés avec les autres gens, les matériaux, avec ce que vous êtes en train de présenter. Ils ont besoin d'interagir. Et c'est ça le pouvoir des événements directs. Comme humain, on est en train de faire du design de jeu, mais à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est de s'engager avec d'autres humains. Et on ne peut pas vraiment faire ça avec des événements en ligne. C'est là où vous voyez le pouvoir de faire ces choses en personne. Et comme une anecdote personnelle, mes amis et moi, on avait... ce qu'on appelait un Twitch stream. On jouait à des jeux vidéo. Ils disaient, c'est le fun, mais on aimerait vraiment pouvoir interagir ensemble. Alors, on a pris du temps. On a pris beaucoup trop de temps. Et on a créé un petit système où tous nos amis et les gens qui regardaient pouvaient voter sur ce qu'on était pour boire pendant la soirée lorsqu'on jouait ces jeux vidéo. C'était vraiment une mauvaise idée, mais on a eu beaucoup de plaisir en faisant ça. Et à cause de ça, les gens se sentaient engagés. Et tu pouvais vraiment voir avec les chats que les gens étaient connectés à ce qu'on faisait. Et ça fait toute la différence. Excellent. Mais avant qu'on passe à la session de questions, est-ce qu'on peut donner un applaudissement pour notre table ronde et nos panélistes? Qui va être la première personne brave? Sérieusement? On a parlé d'événements en direct qui sont assez grands, je crois, qui impliquent beaucoup de logistique, que ce soit une tournée ou un genre de trade show. Je crois qu'une des choses qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas adressé, c'est si on parle de médias sociaux comme Facebook Live, YouTube, où on ne peut pas vraiment... faire une émission en direct ou live, mais vous pouvez l'afficher. Avez-vous des plans d'essayer quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez pensé à ça par rapport à peut-être baisser vos coûts pour des entreprises plus petites ou des artistes? Ça serait peut-être une façon plus facile de se faire connaître que d'être debout sur un coin en train de jouer un instrument. Avez-vous des plans Ou qu'est-ce que vous pensez? Parce que c'est un dialogue numérique. Mike en premier. Alors, la première chose que je peux dire, c'est que dans le Game Design Challenge, on a des plans pour incorporer les médias sociaux comme Twitch. Et on fait ceci pour amener les endroits qui sont loin, comme ça, nos compétiteurs qui sont à Sudbury, sous Thunder Bay, peuvent voir ce que tout le monde est en train de faire dans les autres endroits. Un des défis qu'on a ici au nord de l'Ontario, c'est la distance géographique qui sépare les gens. Et à mesure que les médias sociaux grandissent, qu'on trouve des nouvelles façons d'interagir avec un et l'autre de façon éloignée, ça devient de plus en plus important pour nous de vraiment connaître ça et de comprendre ça. Surtout si on veut agir comme un groupe collectif de personnes du nord de l'Ontario. C'est intéressant parce que Letterkenny a commencé comme une série digitale, numérique. Depuis ce temps-là, ça a commencé avec des vidéos YouTube. Ça n'avait pas été annoncé. Alors, c'était des vidéos de 2 à 5 minutes. Et de là, ça a évolué à une émission de télé. Alors, ce qui en est de notre média social, je ne dirais pas qu'on en fait beaucoup. On a juste embauché une compagnie pour gérer notre média social. Alors, ça va devenir une entité en soi. Et on est dans le processus de figurer ce qui va fonctionner, ce qui ne fonctionne pas. On a une présence sur les médias sociaux avec succès, mais c'est pas fréquent, d'après notre contribution. Nos fans en parlent souvent, mais nos tweets et ce qu'on affiche, c'est pas d'une façon que ça a été dans le passé, comme on y insérait des vidéos. Maintenant, c'est plus des promotions. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train d'évaluer pour identifier quelle est la meilleure approche. Parce que maintenant, ça a fonctionné. Est-ce que ça fonctionne à son potentiel maximum? Je ne sais pas. Il faut figurer ça. Par rapport aux émissions en direct, à travers des médias sociaux, peut-être montrer des bribes. Mais le point, c'est de t'enlever sur ton ordi, sur ton téléphone et de venir aux émissions en direct. Alors, c'est d'essayer de trouver la balance. Je ne sais pas si ça répond à ta question du tout. C'est d'essayer de trouver un équilibre. Quelle est la responsabilité des médias sociaux, de la tournée en direct, l'émission de télé? Moi, je dirais, d'après les médias imprimés, certainement dans les dernières 20 années, Sudbury.com, c'est 12 heures, 7 heures, 7 jours par semaine. Ils ne peuvent pas aller en direct de la salle de nouvelles. Alors, c'est une révolution à l'intérieur de 10 ans d'aller décrire une histoire et de le voir imprimé une semaine après ou 5 jours après, avoir ça fait instantanément. Alors, on a évolué et on a grandi de façon différente. Prochaine question? J'ai pas besoin de microphone. Ah, juste pour moi, s'il vous plaît. Bonjour. Je commence une nouvelle vie comme. Comme producteur et collaboration, comment vous avez trouvé du succès ou considéré? Vous parlez d'événements en direct. Et la communauté de théâtre, je sais que la communauté, surtout dans des villes comme celle-ci, ont de la misère. malgré à cause des accomplissements dans les espaces de médias et de télévision. Je me demande s'il y a une synthèse d'intention d'exécution. Je crois que je vous ai peut-être confus. Est-ce que c'est une considération en allant de là-bas? Est-ce que vous parlez du théâtre global, la collaboration avec des entités théâtrales dans l'espace local pour promouvoir ces événements directs? Parce qu'ils sont déjà impliqués dans les communautés, mais en même temps, essayer d'intégrer l'aspect numérique dans ce monde. Parce que c'est très difficile, parce que le théâtre... Je crois que je peux dire quelque chose à ce sujet. J'ai un peu de réseautage avec certains cercles, même avec ceci. La grosse chose que je vois ici en ville, c'est que ce sont des cercles qui sont vraiment pas connectés ensemble. À Sudbury et dans d'autres communautés du Nord Ontario, ce que je vois, c'est qu'on a besoin de beaucoup de travail pour rassembler ces groupes. Comme ça, on peut faire des choses exactement comme ce que vous dites. D'amener les développeurs numériques et les gens qui connaissent comment faire ceci avec les communautés de théâtre qui ont le talent et les capacités de production pour le réaliser. Et une fois qu'on va réunir ces gens, on va être plus connectés comme une communauté. Et c'est là où on va voir ce genre d'événements qui vont prendre vie. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non? Non. Prochaine question? Merci. On vit dans des temps difficiles, avec des défis. Et on parle de l'ascension et des changements dans les publications, les médias, YouTube, ce genre de choses. Ici à Sudbury, on a une baisse de 40% d'auditoire au centre de théâtre. Et la symphonie est allée de 800 à moins de 400 personnes. Ce sont des activités qui, pendant longtemps, ont eu beaucoup de succès et qui grandissaient, se développaient et ont développé des auditoires. Et ce que vous semblez dire aujourd'hui, c'est que vous regardez à des groupes, des niches et des émissions de télé qui ont développé un auditoire où vous pouvez aller dans la communauté et créer un auditoire, non seulement sur l'Internet, mais aussi des auditoires, des sièges. Alors, comment est-ce que vous voyez ceci évoluer? Il y avait un commentaire par rapport à des synergies, des partenariats qui pourraient être établis pour se diversifier, des entreprises qui ont fait partie de notre communauté pendant des années, mais qui on voit maintenant sont en train de changer, sont en train d'être menacées de façon financière et culturelle. Alors, beaucoup de ces choses qui ont développé à travers des années et ont enrichi notre communauté. Et je ne dis pas que les émissions télé ne font pas ça aussi, mais on a des démographies qui changent, les changements dans l'économie, dans le revenu et les familles qui sont affectées, qui doivent prendre soin de leurs enfants et ou leurs parents, certaines des familles. Alors, il y a eu tellement de changements et on voit ceci qui arrive devant nos yeux. Mais ce que vous semblez discuter aujourd'hui, c'est de comment faire quelque chose vous-même qui peut créer des auditoires à l'extérieur des choses traditionnelles. Alors, Tammy, je ne suis pas certaine de ce qui va arriver dans le futur pour le Cinéfest. S'il va peut-être être affecté de façon négative par les médias numériques et les films, les émissions sur Netflix. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, le défi, et j'imagine que ma question après ce discours, comment est-ce que vous allez toucher votre auditoire que vous croyez veulent participer d'une façon plus intime. Comment est-ce que vous accomplissez ceci dans un endroit, dans un environnement qui est tellement divisé? Il y a tellement de choses là. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que c'est de bouche à oreille? Est-ce que c'est une annonce? Avant d'aller à la table ronde, je crois que c'est pourquoi on a ces discussions. Il y a des gens ici qui ont des idées, des cerveaux incroyables. Et c'est pour ça qu'on fait ce réseautage et ces rencontres. Et on a tous des défis avec ceci, que ce soit des événements, petits événements rattachés à des présentations orales, ou quelques années passées, on a eu un film qui présentait un acteur, Joel Thomas Hinds, qui est aussi un auteur, un musicien, très respecté dans plusieurs cultures. Et il a fait un très petit spectacle pour environ 30-40 personnes. Il a enregistré, c'était sur YouTube, et ça a réussi très bien pour lui comme un morceau promotionnel, mais ça nous a donné une opportunité d'avoir contact avec lui, de démontrer son talent, et ça a créé une de ses expériences en direct pour les auditoires qui voulaient voir plus que lorsqu'il est dans un film. Des fois, on a planifié pour plaire à une histoire. C'est quelque chose qui évolue et on doit continuer à être créatif par rapport à notre approche et travailler avec le futur et essayer de figurer ce qui s'en vient. Est-ce qu'il y a quelque chose qui veut ajouter, quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Marc, quand j'ai commencé en entreprise, c'était d'être aussi large que possible, d'essayer de plaire à tout le monde. Alors, comme exemple, des sitcoms, des comédies, surtout au Canada, on a essayé de plaire à tout le monde. Ça n'avait pas lieu dans une ville spécifique. Ça pouvait être n'importe où, dans le nord de l'Amérique, Toronto, New York, c'était juste n'importe où. On ne parlait jamais où est-ce que c'était spécifiquement. Et les farces et les histoires étaient larges comme ça. Alors, pendant longtemps, on ne pouvait pas enraciner quelque chose. Mais maintenant, je crois que parce que tout est tellement divisé, il y a une grosse opportunité, vous êtes presque obligé d'avoir une niche. Même les gros magasins de chaîne, il y a plus de petits magasins, je ne suis pas certain. Même la scène des restaurants, il y a de plus en plus d'entreprises spécialisées. Et je crois que ça retourne à les choses de niche. Le Lucanie, c'est un exemple. C'est tellement une niche que c'est devenu large en soi. Alors, je vois un patron de projet qui ont commencé comme des niches et ensuite ils ont dépassé un seuil, c'est devenu large. Alors, il y a une grande opportunité que si tu peux dépasser la peur d'essayer de plaire à tout le monde, tu vas pouvoir plaire à beaucoup de gens en étant toi-même. Alors, je crois que Marc a vraiment couvert tout ce que j'aurais pu dire. Ce serait peut-être une anecdote, mais une chose que je vois parmi mes amis et mes socles, c'est qu'on retourne à l'arrière. Alors, il était une fois, je suis la première personne de dire les jeux vidéo, c'est le futur. Mais les gens qui ont grandi dans ma génération, qui ont joué des jeux vidéo, et rattaché à des écrans pendant des longues périodes de temps, et qui se trouvaient de situations isolées, ayant joué ces jeux pendant si longtemps, on se trouvait vraiment... ils sont toxiques, ils jouent tout seuls. C'est très fort et ça rend les gens qui sont vraiment pas gentils envers un et l'autre. Les gens sont tannés. Mais ce que je vois, c'est des choses comme on retourne à des jeux sociaux comme Dungeons and Dragons. Des gens qui viennent en gros groupe pour jouer des jeux de table avec leurs amis. Je sais que Dungeons and Dragons, couramment, est plus populaire que ça l'était lorsqu'il était à son fort pendant les années 80. Alors, ça dit quelque chose. Alors, je crois que les gens retournent, qui sont prêts à aller plus loin pour interagir et de façon valable. Et c'est quelque chose que je crois que, et j'espère qu'on va voir. Et si je peux ajouter un de ces jours, je vais écrire un article par rapport à comment c'est possible de survivre et de jamais quitter votre maison. Tu veux faire tes activités bancaires, tes épiceries. C'est pas un monde dans lequel je veux vivre. Et je crois qu'on commence à se rendre compte que personne veut vivre comme ça. La plupart des gens, du moins. Alors, John, à votre point, ça va arriver. Les gens vont commencer à sortir parce qu'on est des êtres sociaux. La télévision était bien assez pire pour ma génération. Maintenant, il y a vraiment des inquiétudes. Qu'est-ce qui arrive pour les millénaires? Qu'est-ce qui arrive pour les jeunes de 15-16 ans qui n'ont jamais sorti de leur chambre à coucher? Ils vont à l'école et ensuite, ils passent tout leur temps dans leur chambre à coucher avec leur téléphone. Alors, je crois qu'on va voir, quand on retourne à notre thème d'événements directs, que les gens vont dire, on a besoin de sortir. Je suis d'accord, c'est une bonne façon de terminer cette période de questions. Est-ce qu'on attend pour une autre question? Oui, cette question est pour Mike. Je veux te féliciter pour ce que tu as fait dans ta carrière. Je crois que... Oh, excusez, c'était pour Mark. Vous avez pris des émissions sur YouTube et ensuite fait des émissions de télé avec. Et alors, c'est une question à deux parties. Est-ce que vous avez choisi Letterkenny, le personnage, et si vous pouvez partager des défis que vous avez navigué cet espace sensible avec la mafia? Ah bien oui. Tu pensais que tu t'en sauverais facilement aujourd'hui. On était très près d'avoir fini. Alors la première question, non. On avait choisi Anthony parce qu'il était le meilleur pour le rôle. Et à la deuxième question, n'importe quel temps que tu t'occupes de quelque chose ou de quelqu'un ou une histoire qui est réelle, c'est une vraie famille, une vraie personne, peu importe, il y a un niveau de responsabilité. Tu n'es pas toujours obligé de prendre en ligne de compte ta sécurité personnelle pour le projet, mais tu dois présenter l'histoire et les personnes impliquées avec respect et humilité et essayer de demeurer aussi précis. On a pris la route d'être inspiré par au lieu d'être basé sur. Alors, c'est peut-être des sémantiques, mais il y a une différence légale par rapport à inspiré par une histoire ou basé sur une histoire. Et ça nous a permis certaines flexibilités créatives pour pouvoir raconter notre histoire. C'est pas comme si c'est une militaire ou médicale où tout est documenté. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors, on a décidé d'être inspiré par et on s'occupe des membres de famille qui sont encore en vie. Et il y en a beaucoup qui sont décédés ou qui ont été tués. C'est important d'être responsable. Il n'y a aucun doute. Et certains personnages ont peut-être fait des drogues et on a dit on n'a aucun dossier que et cette personne ne fait pas des drogues. Alors ça peut être une grosse infraction ou ça peut être honteux pour une famille qu'un membre de leur famille fait des drogues. Le dialogue, tout a été on en a pris beaucoup soin pour minimaliser les risques légaux et la responsabilité. Alors, c'est tout, mesdames et messieurs. Alors, on remercie les membres de la table ronde. J'aimerais aussi remercier Ariane et Sherry et Kevin et à vous tous. Bonne journée. Et j'espère que vous allez jouir de la neige qui s'en vient.